Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est le journal, Isabelle Millet.
Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime.
Il aimait les Français, passionnément, mais aussi la Corona, la tête de veau, les sumo, la Corrèze, le salon de l'agriculture, les arts premiers, Jacques Chirac, 40 ans de vie politique, une page de l'histoire de France se tourne aujourd'hui. Depuis midi, vous le savez, Europe 1 a bouleversé ses programmes depuis l'annonce de son décès à 86 ans. On va revenir, évidemment, sur les temps forts de sa carrière, alors que les réactions affluent du monde entier. On écoutera notamment l'émotion d'Alain Juppé, mais aussi celle de Thierry Breton, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, qui sera l'invité d'Emmanuel Dutheil aux alentours de 22h20. On écoutera évidemment les Corréziens avec qui il avait tissé, on le sait, un lien unique. Mais d'abord, je voudrais qu'on réécoute ensemble un extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a bouleversé son agenda, annulé son déplacement prévu pour parler des retraites. Il est resté à l'Élysée, d'où il a rendu un vibrant hommage ce soir à son prédécesseur.
Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Et que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Nous avons pour Jacques Chirac ce soir de la reconnaissance. Il fit tant pour notre nation, nos valeurs, la fraternité et la tolérance. Nous nous souvenons ce soir avec émotion et affection de sa liberté, de sa personnalité, de ce talent qu'il eut de réconcilier simplicité et grandeur, proximité et dignité, amour de la patrie et ouverture à l'universel. Mes chers compatriotes, portons en nous désormais cette part de notre histoire qui l'accompagne, conscient de notre dette à son égard, fort de ce qu'il nous a légué. Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous.
Bonsoir Adrien Beck, bonsoir. Du service politique d'Europe 1. Alors on vient d'entendre un extrait de cet hommage d'Emmanuel Macron qui a eu ce soir, on peut le dire, un démo très fort.
Oui, Emmanuel Macron installé à un bureau avec pour seul décor un petit portrait en bronze du général de Gaulle, cadeau de Jacques Chirac lors de leur rencontre en juillet 2017. En une dizaine de minutes, le chef de l'État trace le portrait de son prédécesseur, un homme que nous aimions autant qu'il nous aimait. Un homme qui rassemblait. Emmanuel Macron cite alors le discours du Veldiv avant d'évoquer Chirac, l'homme libre, celui qui refusa de participer à la guerre en Irak, celui qui s'engagea pour une Europe des hommes plutôt que des marchés, Jacques Chirac qui, plutôt que d'autres, alerta sur le climat. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, c'était en 2002. Emmanuel Macron revient aussi, enfin, sur des aspects plus intimes. Il évoque à demi-mot le décès de la fille de l'ancien président, ses blessures, mais aussi sa passion pour les arts d'Océanie et d'Afrique. Un destin français, dit Emmanuel Macron, destin qui sera célébré lundi à midi lors d'une cérémonie à l'église Saint-Sulpice à Paris. Lundi décrété aussi jour de deuil national.
Merci beaucoup Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et juste après cette allocution, le président et son épouse se sont rendus rue de Tournon, au domicile des Chirac, devant lequel vous vous trouvez, Hélène Terzian.
Exactement. Emmanuel Macron est sorti de l'hôtel particulier où se trouve l'appartement de Jacques Chirac peu après 21h30. Le chef de l'État est sorti en voiture accompagné de son épouse Brigitte Macron sans s'arrêter devant les très nombreuses caméras et les micros tendus. Emmanuel Macron a donc passé près de 40 minutes auprès de la famille Chirac pour leur présenter ses condoléances et celles de toute la nation. Rien n'a filtré de ces échanges. On ne sait d'ailleurs pas précisément qui est ce soir dans l'appartement, s'il y a Bernadette Chirac, Claude, sa fille ou encore des amis du couple. On n'exclut pas pour le moment que d'autres personnalités viennent lui rendre hommage. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons par exemple vu le milliardaire François Pinault, ami très proche du couple, accompagné de son fils. Il faut d'ailleurs savoir que l'appartement où vit le couple Chirac depuis 3 ans appartient à la famille Pinault. Le gendre de Jacques Chirac a en tout cas prévenu qu'il limiterait les visites pour préserver la tranquillité de Bernadette Chirac. Ici, en tout cas, la rue Tournon a été verrouillée par les policiers depuis l'annonce du décès de l'ancien président. Mais je peux vous dire que c'est tout un quartier qui est très touché tout au long de la journée. Des passants sont venus déposer à quelques mètres d'ici des fleurs pour lui rendre un dernier hommage.
Merci beaucoup Hélène Terzian. En direct pour Europe 1, rue Tournon, donc devant le domicile des Chirac. Emmanuel Macron a également annoncé tout à l'heure qu'il ouvrait les portes du palais de l'Élysée aux Français dès ce soir, afin que ceux qui le souhaitent puissent venir exprimer leurs condoléances sur des registres. Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes en direct de l'Élysée. Est-ce qu'il y a du monde, Jean-Gabriel ?
Oui, Isabelle, il y a beaucoup de monde devant le palais de l'Élysée et la file d'attente s'allonge encore. Entre 200 et 300 personnes bravent le vent et la nuit pour pouvoir entrer dans le vestibule d'honneur à l'intérieur de l'Élysée. Et ce qui frappe, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme Sarah, venue d'Argenteuil.
Je suis née sous Chirac en 95 et je viens rendre hommage à l'homme qu'il était, au président qu'il a été, pour tous les Français, et même, je pense que c'était un grand homme pour le monde.
Les témoignages sont unanimes, et dans la file d'attente, on croise aussi des gens qui ont connu personnellement Jacques Chirac, comme Édouard, qui a travaillé comme cuisinier à la mairie de Paris. Il se souvient évidemment de ce qu'il préparait.
Et la tête de veau, toutes sortes de plats, les bourguignons. Bon. C'est un bon mangeur, vous voyez. Il est proche des gens, c'est un grand homme, c'est un grand président. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Alors chacun réfléchit aux petits mots qu'il va laisser dans le recueil de condoléances. Mathieu, jeune étudiant de 18 ans, sait déjà ce qu'il va écrire.
Je pense que je résumerai en quelques mots en disant homme d'État, précurseur et amoureux de la France. Il a marqué notre pays.
Les Parisiens, les Françaises et les touristes pourront venir jusqu'à dimanche rendre hommage à Jacques Chirac ici à l'Élysée.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois en direct du palais de l'Élysée pour Europe 1. Et comme à l'Élysée ce soir, à l'hôtel de ville de Paris, des registres de condoléances ont été ouverts cet après-midi. La capitale où depuis la mi-journée les drapeaux sont en berne. Ce soir sur le parvis de l'hôtel de ville, des photos de Jacques Chirac sont diffusées sur un écran géant. Et puis la tour Eiffel est éteinte depuis 21h en hommage à celui qui fut l'ancien maire de la capitale pendant 18 ans. Jacques Chirac, on le disait, c'est 40 ans de vie politique qui démarre en 1967. Il est alors député de Corrèze jusqu'en 2007 et la fin de son second mandat de président. Entre-temps, il a connu les ministères, la mairie de Paris, Matignon, une vie marquée par la passion de la France qu'il avait chevillée au corps. C'est d'ailleurs ce qui ressort de tous les témoignages que l'on entend depuis la mi-journée et que l'on va encore entendre tout à l'heure. Une vie jalonnée de plusieurs dates clés. Le bulldozer Chirac, portrait signé Aurélie Herbemont.
Deux fois président, deux fois Premier ministre, huit fois secrétaire d'État au ministre, sept fois député de Corrèze, trois fois maire de Paris. Jacques Chirac, c'est une carrière à faire pâlir toute la classe politique. 40 ans d'une carrière qui commence quand le général de Gaulle est encore à l'Élysée en 1967. Cette année-là, à peine élu député, il entre au gouvernement de Georges Pompidou, qui le surnomme « mon bulldozer ». Son ascension est fulgurante jusqu'à Matignon en 1974. À 42 ans, il devient le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, mais deux ans plus tard, il claque la porte.
Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie.
Désormais, Jacques Chirac n'a plus qu'un objectif, l'Élysée. Pour y parvenir, il se fait élire à la mairie de Paris qui devient sa forteresse et crée le RPR, sa machine de guerre. Mais pour gravir la dernière marche du pouvoir, il doit s'y reprendre à trois fois. 1981, il est éliminé dès le premier tour. 1988, après deux ans de cohabitation, lui à Matignon, François Mitterrand à l'Élysée, Jacques Chirac est largement battu par le président sortant après un duel télévisé à couteau tiré.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Pour Bernadette Chirac, la leçon de cette défaite est claire. Les Français n'aiment pas son mari, mais pas de quoi décourager le maire de Paris. En 1995, contre l'avis de beaucoup de ses amis, Jacques Chirac se lance encore une fois à l'assaut de l'Élysée. Cette fois, c'est la bonne. Il est élu le 7 mai, après une guerre fratricide contre Édouard Balladur et un second tour face à Lionel Jospin.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour cette soirée électorale. Attention, il va être 20h. Il est 20h.
Jacques Chirac est élu président de la République. Monsieur Jacques Chirac, élu président de la République avec 52% des suffrages, c'est l'estimation de BVA.
Deux ans plus tard, c'est la dissolution hasardeuse. Jacques Chirac perd la majorité à l'Assemblée nationale et doit nommer Lionel Jospin à Matignon. Après cinq ans de cohabitation, le Premier ministre décrit le président comme un homme vieilli, usé et fatigué. Mais le 21 avril 2002, coup de tonnerre, c'est Jean-Marie Le Pen qui est qualifié pour la finale de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est donc réélu avec 82% des voix. Moment phare du quinquennat, le chef de l'État s'oppose à la guerre en Irak.
La guerre a tellement de conséquences, généralement désastreuses, qu'il faut toujours considérer qu'il y a encore un moyen, même si les apparences ne sont pas très favorables.
Sa popularité grimpe alors en flèche, mais très vite, les ennuis arrivent en escadrille. Échec du référendum sur l'Europe, montée en puissance de Nicolas Sarkozy, accident vasculaire cérébral, émeute dans les banlieues. En 2007, Jacques Chirac apporte bon gré malgré son soutien au nouvel homme fort de la droite. Et le 16 mai, il quitte l'Élysée sous le regard de son successeur, Nicolas Sarkozy. Deux mois plus tôt, le 11 mars 2007, il avait laissé percer son émotion dans une déclaration d'amour à la France et aux Français.
Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde.
Rattrapé par les affaires, affaibli mais redevenu populaire, Jacques Chirac est condamné à 2 ans de prison avec sursis en 2011. Une première pour un ancien président. Après son départ du pouvoir, il s'astreint à ne pas commenter la vie politique. Un an avant la présidentielle de 2012, il défraye pourtant la chronique en affirmant qu'il votera François Hollande et pas Nicolas Sarkozy. De l'humour corrézien, selon son entourage. De l'humour ou peut-être un élan de sincérité venant d'un homme libéré de la langue de bois.
Un portrait signé Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Aurélie qui évoquait l'humour corrézien. En tout cas, s'il y a bien un coin de France où l'on est particulièrement touché par cette disparition, c'est justement la Corrèze, là où tout a commencé, là où le jeune énarque Jacques Chirac a gagné son premier mandat au conseil municipal de Sainte-Féréole en 1965. Cette émotion, elle est palpable dans la région, comme a pu le constater Stéphane Place.
Des Corréziens qui, et ce n'est pas nouveau d'ailleurs, continuent d'appeler Jacques Chirac le grand. C'est ainsi que l'on désigne dans ce département l'ancien chef de l'État, le berceau de la famille, vous le rappeliez, c'est effectivement Sainte-Féréole et c'est d'ailleurs là qu'il avait été élu la première fois sans être vraiment candidat au conseil municipal. Une longue histoire, c'est surtout en Corrèze en mars 67, le 12 de mémoire, que Jacques Chirac avait été élu député. C'est peu dire qu'il a marqué la Corrèze de son empreinte. Alors forcément ici, depuis l'annonce à la mi-journée de son décès, l'émotion est perceptible dans les discussions et dans les rues de Brive, par exemple, on rend volontiers hommage au président et aux Corréziens.
J'aimais bien l'homme, j'aimais bien sa stature, sa façon de dire les choses. C'était un grand homme qui représentait bien la France. C'était un homme qui aimait serrer les mains, qui aimait les paysans, qui aimait la campagne, qui aimait les gens.
Bon, j'étais de Sainte-Féréole et comme il avait ses parents à Sainte-Féréole aussi, puis bon, c'était un bon président. Hein. Il aimait la Corrèze. Hein. Quand je l'ai appris à midi, c'était touchant. Parce que moi, j'ai fait toute mon école à Sainte-Féréole. J'ai bien connu ses parents et tout. Des gens très simples, comme lui, pareil. Le pauvre à côté et le riche, c'était pareil pour lui.
Brive, où je me trouve et où une avenue porte le nom de Jacques et Bernadette Chirac, inaugurée il y a un peu plus d'un an, en présence de l'épouse de l'ancien chef de l'État. Brive, où il existe aussi une boutique vendant des articles, t-shirts, mugs, tabliers, à l'effigie de Jacques Chirac, et qui reçoit sur sa page Facebook aujourd'hui, me disait le responsable, des condoléances de la France entière, mais aussi d'Afrique, par exemple.
Un reportage de Stéphane Place à Brive. Les hommages de la classe politique sont évidemment très nombreux. Vous en avez entendu énormément depuis la mi-journée sur Europe 1. Et il y a un homme qui est particulièrement affecté par cette disparition. C'est Alain Juppé qui fut son premier ministre, celui que Jacques Chirac surnommait le meilleur d'entre nous.
J'ai éprouvé une profonde tristesse, car j'avais avec Jacques Chirac une relation d'homme politique à homme politique, bien sûr, mais surtout une relation de confiance, de fidélité, d'amitié, comme il en existe peu, je crois, dans le monde politique. Elle s'était tissée au fil des années. Je ne sais pas si on peut parler d'une relation filiale, peut-être, mais en tout cas, c'est l'homme d'abord, ce soir, que je pleure. Quand j'ai rencontré pour la première fois Jacques Chirac, c'était en 1976, il était Premier ministre dans son bureau à Matignon et j'étais jeune fonctionnaire. Voilà, et donc un jeune fonctionnaire ne tutoie pas le Premier ministre, nous n'avons jamais perdu cette habitude, mais ça n'empêchait pas une très grande proximité. J'ai pu l'éprouver dans les moments difficiles, j'ai pu l'éprouver aussi quand il m'a donné ma chance et qu'il m'a permis d'accéder aux plus hautes fonctions, ou presque, en tout cas celle de Premier ministre. Il m'a beaucoup donné, je l'ai dit, j'essayais de lui apporter aussi beaucoup mes compétences, si j'en avais, surtout mon énergie et ma fidélité.
L'émotion d'Alain Juppé ce soir dans le Grand Journal du soir de Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. « C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui », dit Nicolas Sarkozy. « Je pleure un homme qui a occupé une place immense dans ma vie et à qui je dois mon engagement en politique », dit Dominique de Villepin. « C'était un homme de cœur, de culture et d'humour », dit de lui son ami Jean-Louis Debré. François Hollande salue un combattant qui avait su établir un lien personnel avec les Français. Valéry Giscard d'Estaing, qui fut son rival pendant tant d'années, exprime lui aussi son émotion. Nicolas Hulot salue sa sensibilité écologique. Il fut, dit-il, l'un des premiers artisans de la conscience environnementale internationale. Même Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon lui rendent hommage. Il incarnait le grand prestige de la France à l'étranger pour le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault. Et puis notez que dans quelques minutes, sur Europe 1, Emmanuel Dutheil reçoit Thierry Breton, le PDG d'Atos et ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac. Hommage à l'international également, le président de la Commission européenne se dit dévasté par la perte d'un grand ami. Angela Merkel salue un formidable partenaire. Boris Johnson en Grande-Bretagne parle d'un dirigeant qui a façonné le destin de la France. Jacques Chirac était un grand ami du Gabon, écrit sur Twitter Ali Bongo, le président gabonais, un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance. Le roi Mohamed VI du Maroc affirme pour sa part que son pays gardera précieusement le souvenir d'un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d'amitié entre les deux peuples en les érigeant en un partenariat d'exception. Et puis au Liban aussi, le Premier ministre Saad Hariri évoque l'un des plus grands hommes de la France. On connaît les liens que Jacques Chirac entretenait avec son père, l'ancien président Rafik Hariri. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette page d'Histoire de France qui se tourne aujourd'hui avec la disparition de Jacques Chirac. On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir très longuement dans nos prochaines éditions. Et bien sûr dans la matinale d'Europe 1 avec Julien Pierce et avec Mathieu Béliard. Et puis donc d'ici quelques minutes avec Thierry Breton. Mais d'abord, on jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et le temps, Anissa, demain s'annonce maussade au nord, mais plus ensoleillé au sud.
Oui, c'est ça exactement, Isabelle. Sur les côtes de la mer du Nord, la Manche, la Normandie et la Bretagne, le temps est assez humide demain matin avec quelques averses. Mais c'est surtout en Gironde, Limousin, Auvergne, dans le Nivernais, le Jura et la Lorraine. En fait, sur une bande qui va des Charentes jusqu'à la Lorraine, c'est là vraiment que les pluies sont les plus soutenues demain. Prévoyez votre parapluie parce qu'il va vraiment beaucoup pleuvoir. Le ciel s'éclaircit sur l'Alsace au fil de la journée, sur la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen, le Languedoc-Roussillon et l'Occitanie. Là, le soleil brille dès le lever du jour. Vous aurez une très très belle journée. Les températures, elles sont très douces pour la saison, surtout au sud. 10 degrés à Chambéry le matin, 14 à Quimper et Toulouse, 15 degrés à Paris au lever du jour. Demain après-midi, 19 à La Rochelle, nous aurons 20 degrés à Paris, 25 à Albi, 26 à Bastia. Et attention, c'est les à Marseille avec 28 degrés et 30 à Nîmes.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et puis Thierry Breton au micro d'Emmanuel Dutheil pour évoquer la disparition de Jacques Chirac. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
À 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse. Avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Je voudrais qu'on dise d'abord un mot, si vous le voulez bien, sur Jacques Chirac, parce qu'il faut rappeler quand même que quand on parle de la bourse, eh bien, il fut celui qui a lancé les grandes privatisations en France.
Oui, c'est vraiment Jacques Chirac qui a lancé le mouvement en France. On remonte en 1986, à l'époque de la première cohabitation avec François Mitterrand. Jacques Chirac est donc le premier ministre de Mitterrand. Et de 1986 à 1988, le gouvernement va privatisé en partie de très grands groupes comme Saint-Gobain, Havas, TF1 et Suez ou encore les banques Paribas et Société Générale. Alors depuis, tous les gouvernements ont privatisé de grandes entreprises. L'équipe d'Emmanuel Macron planche d'ailleurs en ce moment sur le cas de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris.
C'était important de rappeler tout ça. Merci de l'avoir fait, Claire. Sinon, ça donne quoi du côté de la bourse? Je crois que Wall Street a été pénalisé ce soir par les menaces de destitution, toujours qui pèsent sur Donald Trump.
Oui, on est sur un repli pour les indices, le Dow Jones, 7,029%, 26 893 points. Le Nasdaq, moins 0,58%, 8 031 points. On a d'un côté les espoirs d'avancer dans la guerre commerciale qui rassurent, mais il y a aussi donc cette menace de destitution lancée par les démocrates et qui dérange visiblement les investisseurs, puisque Wall Street baisse ce soir. Facebook perd du terrain. La justice américaine va ouvrir une enquête antitrust sur le réseau social. Elle le soupçonne de ne pas respecter les règles de la concurrence. Facebook perd 1,4%. Le pétrole termine quasi stable à $56,41 à New York. Et puis l'euro cède 0,1%. Il s'échange contre $1,0932.
Et le marché parisien, lui, relève la tête ce soir.
Oui, le CAC 40 remonte après 3 séances dans le rouge. Un gain de 0,66%, 5621 points. Dassault Systèmes domine les hausses sur le CAC en hausse de 4,7%. L'éditeur de logiciels profite d'une recommandation positive d'analystes. Trigano plonge de 22%. Le fabricant de camping-cars est sanctionné après des ventes trimestrielles décevantes. Ailleurs, en Europe, les marchés ont terminé en hausse. Londres bondit de 0,8%. Francfort gagne 0,4%. Madrid et Bruxelles plus 0,5%. Milan plus 0,7%. Plus 0,7% aussi pour le CAC 40 qui termine à 5621 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. Et on continue à évoquer sur Europe 1 Jacques Chirac, dont on a appris aujourd'hui la disparition. Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir son ancien ministre de l'économie.
Bonsoir Thierry Breton.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes actuellement en déplacement, je crois, aux États-Unis, mais on avait très envie de vous entendre ce soir puisque vous avez été l'un des grands ministres de l'économie de Jacques Chirac. Ma première question va être toute simple. Quel souvenir vous gardez de Jacques Chirac?
Je le vis ici aux États-Unis et lors de la tragédie des attentats du 11 septembre. Jacques Chirac avait été très marqué, évidemment, comme nous tous, par ces attentats. Il avait tenu à être le premier chef d'État à venir apporter ici, aux États-Unis, où je me trouve, le témoignage et le soutien de la France. Il me proposait, demander de l'accompagner. Et deux jours plus tard, nous nous trouvions sur Ground Zero, accueillis par le président Bush. Et Jacques Chirac avait trouvé les mots justes, comme d'habitude, avec une véritable empathie, une véritable compassion pour apporter le soutien de la France. Et croyez-moi, ses sentiments, son émotion n'était pas feinte. Alors ça ne l'a pas empêché, évidemment, derrière, de prendre des positions quand il a estimé devoir les prendre, notamment la position qui a été la sienne quelques années plus tard à l'occasion de la guerre en Irak. Mais voilà, il savait être présent et être le premier à le faire.
En matière économique, d'après vous, quel bilan également va laisser le président Jacques Chirac?
On ne peut pas parler de politique économique avec Jacques Chirac si on ne parle pas de l'homme et de sa relation intime qu'il avait avec ses compatriotes, avec chacune et chacun d'entre nous. Et moi, je me souviens, il m'a demandé de faire l'honneur de rejoindre le gouvernement. Ses premiers mots, ça a été de me dire, il me tutoyait, il me dit, il faut absolument faire baisser ce chômage, c'est absolument inacceptable, c'est intenable. Et quelque part, je crois que sa grande satisfaction, c'est que lorsqu'il a quitté finalement son deuxième mandat, eh bien, on a réussi à faire baisser le chômage à 7%. L'Allemagne était à 9%. Et pour lui, quand on lui annonçait qu'on était à 7%, je me souviens, c'était quelque chose qui était formidable. Il nous poussait tellement à le faire avec Jean-Louis Borloo, avec tous les membres du gouvernement. Et finalement, il a eu comme bilan de ramener la France à 7% de chômage. Mais en même temps...
Quel homme c'était dans le travail, dans les relations de travail que vous avez pu avoir avec lui?
Il me faisait confiance, j'étais très, très direct, très libre avec lui. Et vous voyez, le deuxième aspect de sa politique économique, c'est ce que je voulais vous indiquer également, qui traduit assez bien aussi la relation qu'on pouvait avoir, c'est que bien sûr, il était un Européen dans l'héritage gaulliste, mais il voulait quand même que la France tienne ses objectifs. Et c'est dans ce sens qu'il avait dit, voilà, il faut qu'on fasse attention à l'endettement, c'est très important, parce que finalement, à travers ça, c'est la parole de la France qui se fait respecter en Europe et dans le monde. Et là encore, eh bien, il a été le président, et on l'oublie peut-être, qui a baissé l'endettement de la France, le seul du reste, puisque lorsqu'il quitte son mandat, son deuxième mandat, la France est passée à 62% d'endettement, c'est-à-dire quasiment aux critères de Maastricht, et l'Allemagne était à 67%. Pour répondre à votre question, toujours le côté très humain, le chômage, les individus, ses compatriotes, et le rôle de la France en Europe et dans le monde. Et puis, relation extrêmement directe. Il était très attentif lorsque moi-même j'intervenais sur différentes radios, dont la vôtre. Il écoutait, il me rappelait après, il commentait, il était très, très attentif.
Ça a été, du coup, de tout ce qu'on entend, de ce que vous dites, là, Thierry Breton, un très grand président, à votre avis?
C'était un président qui était, je crois, le dernier vrai président, réel président de la Ve République. Il a épousé complètement cette constitution. Il voulait remettre la France dans les rails, mais il voulait le faire dans un rythme qui était un rythme acceptable par tous. C'était très important pour lui, l'acceptabilité. Donc oui, pour moi, c'était le dernier grand président de la Ve République. C'était vraiment un vrai président de la Ve République, dans tout ce que cela veut dire.
Vous avez eu la chance de pouvoir encore parler récemment avec lui quand il était encore un petit peu en forme ces derniers mois, ces dernières années. Et si oui, quelle image il avait encore de la France?
Alors, je dirais plutôt ces dernières années, parce qu'évidemment, ces derniers mois, ils ont été consacrés à sa famille et plus de quiconque. Mais j'ai parlé beaucoup avec lui, évidemment, après qu'il ait quitté ses fonctions de président de la République. Et il n'aimait pas parler de la suite, il n'aimait pas parler de ses successeurs.
Est-ce qu'il vous a confié, malgré tout, un regret qu'il aurait pu avoir en vous disant « Tiens, bah, Thierry Breton, j'aurais aimé faire ça, on n'est pas allé assez loin là-dessus ».
Non, jamais. Jacques Chirac, c'était pas quelqu'un qui regardait derrière. En revanche, il avait des appréciations sur les hommes et sur leur comportement, sur leur trahison. Ça, oui, il les avait toujours.
Thierry Breton, ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, aujourd'hui patron d'Atos. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes en ligne avec nous depuis les États-Unis. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci beaucoup à vous, Emmanuel Dutheillé. À demain. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens avec un visage à la une, bien sûr, celui de Jacques Chirac. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Un visage à la une de tous vos quotidiens demain, forcément, celui de Jacques Chirac. Un visage ou parfois simplement une main, celle de l'ancien président depuis sa voiture lors de son départ de l'Élysée en mai 2007. Cette main qu'il plaque contre son visage de profil à la une de Libération qui titre « Sans chichi ». Chirac, la droite, la gauche dans la droite, écrit Laurent Geoffrin. En apparence, tout le monde connaissait Chirac. Personne en fait. L'homme politique le plus célèbre de France, qui recueille à sa mort des hommages émus, qui suscite, lui n'était pas un tendre, hein, une sorte de tendresse nationale. Il reste un mystère pour l'opinion, pour ses pairs et pour les commentateurs. Adieu, titre soprement Le Figaro. La mort du vieux lion, écrivent Les Échos. Homme du non à l'Irak, du discours du Veldiv et du front républicain face au FN. Conquérant, jamais rassasié. Et président de la République au bilan contrasté. Une histoire française, titre le journal La Croix. En ses jeunes années, Jacques Chirac suscitait une grande méfiance, écrit Guillaume Goubert. Il nous quitte en laissant derrière lui l'image d'un père de la nation. Une silhouette à la Cary Grant, une énergie hors du commun, un humour à décoiffer toute l'aristocratie de sa belle famille et une longévité politique qui vous installe dans le paysage. Jacques Chirac était tout cela à la fois et avec sa disparition, c'est un pan entier de notre histoire contemporaine qui s'en va, écrit Laurent Marchand dans Ouest France. On a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac, nous dit Pascal Ratineau du journal La Montagne. Qu'on ait combattu son action ou qu'on l'ait soutenu, il nous restera à chacun une image, un mot, une phrase, la fracture sociale, le Veldiv, le non-alignement sur la guerre en Irak, le coup de gueule de Jérusalem, la dissolution, le bruit et l'odeur, les affaires abracadabrantesques ou qui font pchit, la Coupe du Monde 98. Avec son décès disparaît le dernier grand fauve de la Ve République. Jacques Chirac s'en est donc allé, laissant à Giscard, son ennemi de toujours, le titre symbolique de dernier homme d'État de l'époque gaullienne encore vivant. C'est ce qu'écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Enfin, Jacques Chirac, la fin d'une époque, titre L'Opinion, dont le dessinateur CAC représente l'ancien président arrivant au paradis et qui rencontre un ange. Celui-ci lui demande « Je voulais juste vous demander un truc. Ça veut dire quoi, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre ?» Et puis signalons que Paris-Normandie est sans doute le seul journal à ne pas consacrer sa une à Jacques Chirac, mais à cet incendie à Rouen qui a ravagé l'usine Lubrizol, classée Seveso, avec une photo très impressionnante de la ville recouverte par un panache de fumée noire. On précise que le feu est maîtrisé. Ce soir, les habitants ont pu rentrer chez eux après une grosse frayeur quand même. Voilà donc pour ce tour d'horizon des une de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure 23h pour un prochain point sur l'info.
À tout à l'heure.